Let's go live now from the Tower of Doom.
Mettons béret, légionnaire.
This is Moray Live.
On devient légionnaire et on reste jusqu'à la mort.
From the Radio X World Headquarters, here is your legendary Legion of Doom. Yes, une des grosses nouvelles de la fin de semaine, c'est tombé vendredi, en fait. C'est une cause qui traîne devant les tribunaux depuis un temps. Ça a passé par la Cour du Québec, ça a passé par la Cour d'appel, puis là, c'était rendu en Cour suprême. C'était les demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils ont le droit à avoir des places en CPE comme les gens qui ont leur citoyenneté au Québec? Ça avait été argumenté depuis un temps. Ça remontait à, c'était-tu 8 ans? 6 ans, quelque chose. En tout cas, dans ces eaux-là là, que ça durait. Puis jusqu'à maintenant, ils avaient perdu devant toutes les cours et ils ont perdu, le gouvernement, je parle, a perdu en Cour suprême. Donc, les demandeurs d'asile doivent avoir accès au CPE. On écoute quelques-unes des réactions juste comme ça.
Évidemment, pour moi, il n'y a rien de plus odieux qu'un homme ou une femme d'État qui est prête à utiliser une clause dérogatoire pour arracher des enfants à des garderies.
Parce que ça a été soulevé assez vite par plusieurs policiers, entre autres Bernard Drainville, à qui on va parler tout à l'heure, qu'il faudrait utiliser la clause dérogatoire pour aller à l'encontre de ce jugement-là. Mais il y avait des solutions. Voyons, des solutions qui étaient mises de l'avant. Regarde, c'est assez simple.
Sortons les pelles mécaniques et construisons des CPE. On en a besoin.
Qu'est-ce qu'on veut, je pense, au Québec et ailleurs pour les femmes qui subissent les contre-coups, c'est que le gouvernement finance ces services-là à la hauteur que les services le méritent. On a un gouvernement qui coupe dans les services sociaux continuellement alors que l'argent est là pour les payer.
S'il veut vraiment aider le Québec, il devrait aider le réseau des garderies, créer des places, arrêter d'exclure des femmes parce qu'elles portent le hijab. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'une clause non-obstant. On a besoin d'un gouvernement.
Je suis déchiré par rapport à ça. D'un côté, je suis d'accord avec le recours à la clause non-obstant, mais de l'autre, je crains un glissement, c'est-à-dire qu'on fasse passer l'échec du modèle québécois sur les immigrants.
Oui.
Il y a un glissement.
Ça, je suis d'accord.
Merci à qui?
À toi.
Merci à moi.
Okay. Oui, parce que ça, je suis d'accord. Puis moi aussi, je suis déchiré un petit peu là-dessus parce qu'il ne faut pas se rendre jusque-là, en effet.
Mais c'est parce que là, on a entendu Legault, à un moment donné, il y a quelques mois, dire on n'a plus de logement, c'est à la faute des immigrants.
Oui.
Faut bâtir des écoles, ça faute des immigrants.
Et là, PSPP...
Il n'y a plus de place à l'urgence. Puis je vais juste donner des chiffres, juste pour établir, si tu permets, Dom, c'est quand même important, les chiffres. Là. Les chiffres sont toujours importants. 303 places en CPE. Il y a 12 515 enfants qui sont arrivés au Québec avec des demandeurs d'asile de 2019 à 2023. Et parmi eux, 6 600 enfants ont entre 0 et 4 ans, donc potentiellement utilisateurs de garderies.
Oui.
Donc, je le répète, il y a 303 places, on a besoin de places, et il y a 6 000 enfants de 0 à 4 ans qui ne sont pas nécessairement inscrits, mais qui pourraient être inscrits. Oui. Il y en a combien d'inscrits? Je n'ai pas le chiffre.
Là. Il manque plus que 6 000 places. Là.
Ben oui.
C'est ça l'affaire. Là. Présentement, je pense, c'est-tu 30 000? J'ai entendu le chiffre de 30 000 en fin de semaine, le nombre de places.
On fera valider avec Drainville, en tout cas, s'il y a le chiffre, il va nous parler tantôt.
Puis, tu sais, ce que tu dis là, c'est comme la nouvelle excuse, parce qu'on a beaucoup de défenseurs du modèle québécois, là, dans nos politiciens, puis qui essaient de mettre ça sur la faute de l'immigration. En effet, même s'il y a de quoi qui est important à dire, puis je vais revenir juste après, là, mais PSPP est exactement sur cette table-là. Là.
Puis on le sait qu'au Québec, on a déjà eu un modèle qui fonctionnait. Avant que le fédéral parte sur une dérive idéologique et nous impose ces décisions-là, le modèle québécois fonctionnait, le français ne reculait pas, le prix des loyers était abordable, puis les gens étaient heureux de cette contribution-là. Est-ce qu'on peut revenir à ce système-là? C'est la question que posera le Parti québécois lors de ces prochaines élections qui arrivent à grands pas, puis je suis très heureux de pouvoir compter.
Donc, ils vont ramener ça en plus à l'élection. Là, réglons une chose. Le modèle québécois est en ruine. Le modèle
totalement.
Québécois ne fonctionnait déjà pas avant qu'il y ait la dérape sur l'immigration de la gang à Trudeau.
Il y a des reportages à longueur de semaine de Québécois dits de souche qui payent 40 000 pour se faire remplacer un genou. Là.
Oui. C'est okay? pas nouveau,
donc,
là.
C'est pas nouveau, là.
L'époque Trudeau, c'est 10 ans, là. mettons 11. C'est pas 25, c'est pas 30, c'est pas 40. Là. Les problèmes, les craques du modèle québécois se font voir depuis de longues années. Pendant un temps, ça n'a pas paru dans les CPE parce que c'était tout nouveau, tout beau. Comme, mettons, nos infrastructures, c'est le même principe. Là. Au départ, ça marche, puis après ça, ça chie. C'est là qu'on est depuis un bout. Moi aussi, j'en ai des chiffres pour toi. Mais parce qu'il y a un problème qui est réel quand même. Les demandeurs d'asile, on l'a échappé au Canada. Puis c'est vraiment sous l'époque Trudeau. La dernière année de Stephen Harper, en 2015,
oui,
il y avait 16 000 nouveaux demandeurs d'asile au Canada. En 2024, c'est les chiffres les plus récents que j'ai, c'est 172 000. On est passé de 16 000 à 172
000. Non, regarde, c'est un échec total. Les faux étudiants.
Oui.
500 000 faux étudiants au Canada.
Ah, j'ai d'autres chiffres pour toi, là. Le nombre de demandeurs d'asile qui étaient présents au Québec, donc pas les nouveaux de cette année-là, oui, là, mais qui étaient présents au Québec en 2015, c'était aussi aux alentours de 16 000, là, 16 058, là, un petit peu au-dessus. En 2020...
Donc, venant de pays, c'est ça, juste pour préciser, là, demandeurs d'asile étant venant d'un pays où on ostracise les minorités sexuelles, les femmes, les religions, les groupes, etc. Donc, la définition de demander un asile, c'est si tu retournes dans ton pays, tu te fais arracher la tête.
C'est ça. Ben regarde, d'ailleurs, on défendait ça en fin de semaine. Je te fais entendre un extrait de Marie-Louise Arsenault avec une invitée puis qui dit ça, justement.
Ben, je pense que ça peut valoir la peine de spécifier que les demandeurs d'asile sont vraiment dans une catégorie spécifique d'immigration parce que contrairement aux personnes qui font des processus d'immigration, que ce soit les immigrants à caractère économique ou les familles qu'on réunit, les demandeurs d'asile sont des personnes qui arrivent en territoire canadien parce qu'ils fuient quelque chose, vraiment, et ils sont dans une position de migration où ils n'ont pas pu planifier leur immigration.
Ils ont quitté la guerre, ils ont quitté des catastrophes naturelles. Ouais.
Ils ont quitté de la violence. Les femmes demanderesses d'asile sont dans des situations particulières. Elles sont souvent des personnes qui vont fuir aussi de la violence conjugale ou de la violence familiale.
Et qui vont subir de la violence sur le chemin qui va les mener au pays d'accueil. Ça, c'est documenté, bien sûr.
Mais on est tous d'accord avec ce qu'il dit là.
Oui, mais ce n'est plus ça. C'était ça il y a 10 ans.
T'as nommé deux pays qui sont peut-être des pays louches à certains égards, mais qui ne sont pas des pays d'asile politique. Ta demi-heure ce matin.
Le Mexique et l'Inde. En 2025, on a, dans les immigrants qu'on a renvoyés, là, il y en a eu 22 000 au total qu'on a renvoyés. Il y en a eu 18-19 000 là-dedans qui étaient des faux réfugiés. Et dans ces gens-là, la citoyenneté, les deux qui reviennent le plus souvent, c'est le Mexique et l'Inde.
Okay. Définissons les droits. Prenons l'exemple d'une madame qui arrive ici, elle est enceinte, et là, on ne mélangera pas l'Inde et le Mexique, on va parler d'un vrai pays, asile politique. Bon, l'Haïti, là, je pense que c'est Haïti.
Ben, l'Ukraine.
L'Ukraine. Okay.
Ouais, l'Ukraine est en guerre. C'est ce qui est le plus simple.
La madame qui est enceinte, on va l'accoucher. On assure les frais. Moi, je suis pour ça. Il y a un filet humain. Il y a un filet. Son mari fait une crise cardiaque. Elle fait une crise cardiaque, un malaise. On va les soigner. On laisse personne sur le trottoir. Ça, c'est un fait.
Oui.
Par contre, regardons la situation des CPE. Ça, c'est un système qu'on s'est donné qui n'existe pas ailleurs dans le monde.
Non.
On a décidé de se payer une Cadillac. Puis, on avait juste un montant pour se payer une Kia. Fait que, coudonc, on s'est dit, on va mettre ça sur la marge de crédit. Puis, finalement, ça a explosé. Explosé à un point tel que c'est devenu totalement ingérable.
Bon, on a surtout créé
avec
une nouvelle...
Avec des directrices de CPE qui sont payées 150-200 000 par année avec la Volvo dans le parking, en passant aussi.
On a créé une structure. C'est toujours ça qu'on fait au Québec. Le modèle québécois, c'est on crée des structures. Tandis que partout ailleurs où le gouvernement finance des places, ben c'est des places privées. Puis, il y a une aide qui est donnée par tête de pipe.
C'est parce que là, prenez l'exemple du texte dans Le Devoir de ce matin, l'éditorial. C'est une vision du Québec à deux vitesses où le droit à la dignité serait conditionnel au statut légal. Non, le droit à la dignité, c'est d'être soigné, d'avoir les soins de base qui sont garantis par les chartes, qui sont garantis par la Charte des Nations Unies, par exemple. Prenons cet exemple-là. Mais les CPE, on a décidé de se payer une infrastructure...
Oui.
C'est pas garanti par les chartes, là, les garderies à 10 piastres.
Non, tu pourrais enlever les garderies, tu pourrais tout privatiser ça demain matin. Il n'y a plus d'aide de l'État, puis c'est tout à fait légal avec la Charte des droits. Là.
Une place à 10 $ n'est pas un droit fondamental
non.
garanti par une charte ou une constitution, quelle qu'elle soit. C'est là-dessus que le gouvernement, à mon avis, devrait s'appuyer pour faire appliquer la charte, la clause nonobstant. Mais en même temps, la clause nonobstant, c'est parce que là, je commence à me poser des questions aussi. On est quasiment abonné à ça. Là. Aussitôt qu'il y a un jugement qui ne fait pas notre affaire, on l'applique. Est-ce qu'on va vivre dans un Québec dans 10 ans qui va être complètement en marge des lois là aussi? Moi, je suis un gars de loi, law and order. Ben, je comprends que des fois, on n'aime pas un tel jugement de la Cour suprême. Mais il en demeure pas moins que c'est la loi pareil. Ah, je l'aime pas ça. Ah, ça, j'aime ça, on va l'appliquer. Moi, ça, j'aime pas ça, on l'appliquera pas, on va close dans l'abstant.
On fait du cherry picking.
Ça va donner un genre de cherry picking, un genre de fromage suisse. Là. Ça, j'aime moins ça. Bon, on va en reparler tantôt, anyway, avec Bernard Drinville aux alentours de 8h ce matin.
Regarde, PSPP a ajouté ça aussi.
Soit on abandonne l'État-providence qui offre des services à la population puis on accueille un nombre illimité de personnes, ou soit on énonce que le Parlement de l'Assemblée nationale a le droit de limiter le nombre de personnes et on conserve les services à la population. Mais c'est un ou l'autre.
C'est la prétention donc, que lui amène. Là. Mais tu sais, c'est parce que, encore une fois, on l'a échappé. C'est parce que ce n'est plus des réfugiés, c'est ça. C'est des gens qui utilisent cette tactique-là pour rentrer au pays en sachant que ça prend des années à traiter les dossiers. Et ce qui n'était pas le cas avant. Encore une fois, quand Harper a quitté en 2015, 90% environ, 93 en fait pour être exact, % des demandes des demandeurs d'asile étaient traitées rapidement. À partir de 2017, fait 2 ans qu'Harper n'est plus là, là. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans après. Là. 2 ans après, t'as au-dessus de la moitié des demandeurs d'asile que ça prend du... Là, ça commence à prendre du temps avant que le dossier soit traité. Là. C'est parce que les gens se disent, regarde, on va aller au Canada, on va en avoir pour plusieurs années, avoir une meilleure qualité de vie, puis après ça, anyway, ils vont se sentir mal de nous mettre dehors. Puis il y a des bonnes chances qu'on reste. C'est ça qui a évolué. C'est comme ça que ça s'est passé, là.
Et on repart les tournées dans les différents pays, dans une dizaine de pays. C'est la une du devoir de ce matin. Oui. On peut pas s'en passer.
Mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre catégorie totalement d'immigration, là.
Mais on peut pas se passer d'immigrants. C'est ça que je veux dire.
Non, ça non.
Si vous pensez, on en sait. Non, le gouvernement, à partir d'aujourd'hui, repart en tournée. On envoie des fonctionnaires partout, en Italie, en France et tout. On veut amener du monde. Il manque de monde dans les écoles, il manque de monde dans le système de santé.
Mais juste quand même, c'est important de spécifier. Là. Ça, c'est du monde justement qu'on va chercher, qu'on veut recevoir, tandis que les demandeurs d'asile...
Ils viennent de leur propre gré.
Ben, c'est ça. On n'a pas de contrôle, on ne sait pas combien qui rentrent. C'est un peu ça.
T'as raison.
Charles Milliard, hier, d'ailleurs, sur cette question-là, il était à Tout le monde en parle. Il nous a servi une belle... Moi, j'appelle ça une belle giblotte de mots. Là. Tu veux plaire à tout le monde en même temps? La réponse est longue, mais c'est parce qu'il y en a pour tout le monde là-dedans. Là.
Êtes-vous d'accord avec cette décision-là? Ou si vous devenez premier ministre, vous allez utiliser la clause dérogatoire?
Premièrement, je pense qu'humainement, c'est une victoire, mais je pense que politiquement, c'est un enjeu important. C'est une victoire parce qu'on est le 8 mars, donc c'est la Journée internationale des droits des femmes, vous le savez. On sait très bien, en tout cas, moi, je partage cet avis-là, que les familles qui n'ont pas accès à un service de garde, c'est largement les femmes qui sont discriminées. Et on sait aussi qu'aller au travail, c'est un outil de valorisation, de sociabilisation et financier important. Ceci étant dit, politiquement, je comprends parce qu'il y a 30 000 enfants en ce moment qui sont sur les listes d'attente. On a accueilli une très large part des demandeurs d'asile par rapport à l'ensemble canadien. Et on a aussi besoin de plus de places. Et je le dis ce soir, puis ça va peut-être faire sourciller quelques personnes, il faut continuer l'œuvre de Pauline Marois. En 97, l'instauration des CPE a quand même changé la face du Québec d'une certaine façon. Alors, il faut continuer à faire ça, mais la CAQ, dans les 8 dernières années, de toute évidence, n'a pas été capable de terminer les listes d'attente. Alors moi, je ne suis pas fermé à utiliser la clause dérogatoire. On va faire une analyse de l'impact, sérieusement. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait une clause grand-père là aussi, parce qu'il y a 6 000 enfants en ce moment qui sont dans les garderies, qui sont des enfants de demandeurs d'asile, et eux, ils n'ont rien demandé, là, et on ne va pas les instrumentaliser. Alors, aux politiciens qui, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, en 5 minutes, ont répondu très rapidement à des mesures plus populistes, moi, je n'ai pas envie d'embarquer là-dedans.
Comme j'ai dit, très longue réponse, mais c'est parce qu'il essaie d'en donner à tout le monde. Là. Il essaie de plaire à tout le monde, puis je pense que ça va être beaucoup ça, Charles Milliard. C'est beaucoup ça ce que j'ai entendu hier et ce que j'entends depuis un certain temps. Mais en même temps, ce qui ressort toujours, c'est que c'est un défenseur du modèle québécois. Lui, regarde, c'est simple. Oui. On a juste ajouté des places en CPE. Oui, mais l'affaire, c'est que ça, c'était la même chose que l'espèce de montage que je t'ai fait au départ, là. Ben oui, construire des CPE, ça a tout réglé. C'est parce qu'il n'y a pas d'éducatrice. La même manière qu'il manque des profs, il manque d'éducatrices.
Non, lui ne voudra pas corriger le modèle québécois. Là. Ça, je ne sais pas si vous avez ça en tête. Ah oui, garde. Lui, il est là pour calmer la sauce.
Oui.
C'est quelqu'un qui est un anti-anxiogène. Dans la période actuelle, c'est pour ça qu'il va monter dans les sondages. C'est quelqu'un qui est anti-anxiogène. Parce que pour le reste, si vous voulez une réforme, il y a juste Duhem qui est dans ce magasin-là.
C'est le PQ, pas de référendum. Donc, t'enlèves l'anxiété pour le référendum, là, parce que le message, c'est le même. C'est « mettez-moi au pouvoir, puis là, le modèle québécois va fonctionner comme par magie. » C'est ça qu'ils sont en train d'offrir, là.
Oui. Là, Dan, parce que tu as eu une information, Quadrinville serait bientôt, c'est ça que tu dis?
Ben, j'ai pas eu d'information. Parce que on me dit, depuis l'ouverture du show, il faut qu'on s'enligne pour être à 8 heures pile pour Drinville.
Oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils appellent, hein, c'est ça. Donc, peut-être gauler la Légion en fonction de ça.
Ben,
c'est ça
qui est plate,
un invité qui appelle. À ce moment-là, on est comme dans une camisole de force, là. Mais je vais vous laisser gérer ça, les gars.
Je finis avec deux extraits. Regarde, encore une fois, tout le monde en parle de milliards hier.
C'est quoi le nationalisme à la sauce Charles-Milliard?
Ben, c'est d'être fier d'être Québécois, c'est de protéger la langue française, c'est de protéger la laïcité de l'État, c'est de vouloir que la nation québécoise vive, survive, prospère, que nos artistes se développent à leur plein potentiel. Moi, la culture, c'est une de mes 5 priorités. Et avec nos artistes, que je vais soutenir, je me fous pour qui ils votent.
Donc, puis ça, c'est pas la première fois qu'il le dit dans les dernières semaines, là, depuis qu'il est même avant qu'il devienne chef. Là. Donc, les artistes, attendez-vous à ce qu'ils leur promettent bien les choses pendant la campagne. Et il était aussi à Infoman la semaine dernière. Voici comment il a été accueilli.
Comment ça s'adapte un politicien scientifique?
Ben moi, j'essaye d'amener la démarche scientifique en politique, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir. Oui, c'est tout un défi.
Vous avez raison. Charles.
Mais d'amener un peu de réflexion, puis une démarche un peu plus méthodique. Puis quelque chose que j'ai appris en pharmacie aussi, c'est la capacité d'écoute. Hein. Les politiciens, idéalement, il faut que ça écoute parce que ça parle. Ça aussi, c'est tout un défi.
Donc, le pharmacien.
Le pharmacien, exactement.
Il est rassurant, la science.
Et lui, son défi, c'est d'aller gagner des points Jacques et Louise en région. C'est ça, son défi. S'il réussit pas ça, c'est un gouvernement péquiste. Donc, lui, il est supposé de faire... C'est pas qu'il fait un balancing act. Oui, je suis Québécois, mais encore, mais faudrait-il que... Un peu à la Elvis Graton dans l'avion, là. Tu sais, donc, il n'y a pas le choix, là, d'opérer de cette manière-là, là. Mais c'est un Dominique Anglade, là.
Oui.
C'est ça que c'est, là.
Exact.